franceinter.fr.
Bonjour. Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques ouvrent les portes de l'enfer. Elles entrent dans le camp d'Auschwitz, en Pologne. Depuis 70 ans, c'est cette date du 27 janvier que l'on a retenue pour célébrer la mémoire des victimes des camps. Pourtant, en pénétrant sur l'immense territoire d'Auschwitz, les soldats de l'armée rouge ne trouvent que quelques survivants. Les SS ont quitté les lieux, escortant quelques 60 000 détenus dans des convois absurdes et terrifiants. Ce sont les marches de la mort, au cours desquelles des milliers de déportés vont succomber, épuisés et souvent achevés par leurs gardiens. Au fil des ans, c'est une évidence, les témoignages directs de cette horreur se font de plus en plus rares. C'est l'un d'entre eux que nous vous proposons dans Interception ce dimanche, celui d'Ida Grinspan. En janvier 1944, Ida a 14 ans lorsque des gendarmes français viennent l'arrêter dans un petit village des Deux-Sèvres où ses parents, des juifs polonais, l'ont envoyé dès les premiers jours de l'occupation allemande. En été 1942, sa mère a été arrêtée à Paris et déportée. Son père, lui, partira dans le dernier convoi en août 1944. Ida connaîtra Auschwitz, les marches de la mort et d'autres camps encore avant d'être libérée. Aujourd'hui, à 85 ans passés, elle continue de se dépenser sans compter, malgré l'âge, malgré la fatigue, pour témoigner auprès des jeunes. Auschwitz, le récit d'Ida. C'est un reportage de Marie-Christine Ledu.
Interception, le magazine de la rédaction.
Bonjour. Je suis Marie-Luce, une collègue de Richard en histoire.
Et nous, on vous remercie parce que c'est important qu'on puisse participer à l'échange avec les élèves.
Qui sont enthousiastes.
Et qui sont toujours très, très enthousiastes, très, très contents. Et c'est ça qui les marque le plus finalement. Plus que la visite d'Auschwitz que je disais
vendredi. Encore plus.
Ah oui.
C'est vrai.
Ah, oui,
c'est... Est-ce que vous voulez qu'on rentre pour que Madame Grinspan n'ait pas froid?
Voilà.
Parce que comme nous sommes encore en plein hiver,
n'est-ce pas? Monsieur le roi, le proviseur de l'établissement. Bienvenue. C'est déjà vu de ma grand-mère.
C'est un établissement qui, au niveau de ses commémorations historiques, est très actif, très dynamique. C'est une ancienne abbaye. Puis un lycée à partir de 1929, je crois. Le lycée Joachim Dubellay.
C'est mon année de naissance.
Voilà. Et c'est très marrant parce que tout à l'heure, il y a un monsieur qui a appelé l'établissement pour me signaler qu'une ancienne élève de l'établissement fêtait son centenaire. Et elle était là, en tout cas, elle était à Angers au moment de la Seconde Guerre mondiale où la directrice et quatre professeurs de l'établissement étaient déportés. Et où malheureusement, trois d'entre elles sont décédées en déportation.
Il fait que quand vos élèves arrivent dans cet établissement, il y a la plaque, ils passent forcément de temps en temps devant, et ils sont au courant de ce qui s'est passé.
Ils sont au courant. Et c'est un établissement qui est fermé, du point de vue de l'entretien de cette mémoire historique. C'est identitaire de l'établissement.
C'est nous qui allons passer la parole après.
C'est pour ça que c'est très important quand les professeurs partent visiter Auschwitz.
Puis cette chance qu'ils ont aujourd'hui d'entendre un témoignage, parce que dans 10 ans, si on est encore dans l'enseignement, on ne pourra plus proposer à des élèves d'entendre quelqu'un qui a vécu l'événement. Et puis son témoignage, il est extrêmement clair pour les élèves. On arrive à bien comprendre les choses, à ressentir la douleur, et ça, bon, les élèves sont très attachés à ça.
Lundi 15 décembre, trois enseignants du lycée Joachim Dubellay à Angers nous accueillent pour la rencontre qu'ils ont organisée pour leurs élèves avec Ida Grinspan. Un échange indispensable avant le voyage qu'ils vont effectuer dans quelques jours en Pologne. Rassemblés dans l'ancienne salle du chapitre, une soixantaine de lycéens de première nous attendent pour écouter le témoignage d'Ida.
Bien, on va commencer cet après-midi. En guise de préparation au voyage en Pologne, nous tenions à ce que Madame Grinspan vienne présenter son témoignage. Elle a été déportée à Auschwitz, et comme on va se rendre à Auschwitz, c'est à travers son témoignage, finalement, que vous lirez le camp d'Auschwitz-Birkenau. Je pense que vous rappellerez un certain nombre de choses quand on se rendra donc, sur place. Madame Grinspan, qui a accepté gentiment de venir témoigner auprès de vous cet après-midi, alors qu'elle est très sollicitée. Il y aura donc un temps de témoignage, et puis ensuite un temps, je pense, de questions.
Bon, alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'a été mon parcours. L'arrestation, le voyage dans les fameux wagons à bestiaux, et l'arrivée à Auschwitz, c'est-à-dire ce qui se passe dès le premier jour quand on arrive à Auschwitz. Et pendant la deuxième partie, eh bien, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez envie de poser. Et ce que je tiens à vous dire pour commencer, c'est que je ne viens pas ici pour me faire plaindre, pour vous dire combien a été dure la vie des femmes à Auschwitz. Non, je viens tout simplement pour que vous sachiez, vous les élèves, ce que des hommes ont été capables de faire à d'autres hommes uniquement parce qu'ils étaient nés. Ils étaient nés juifs, ils étaient nés tziganes, ils étaient nés slaves aussi. Ce n'était pas un conflit, ce n'était pas la guerre. C'était uniquement parce que le Troisième Reich, c'est-à-dire l'Allemagne hitlérienne, avait décidé d'éliminer les juifs d'Europe ainsi que les tziganes. Et ça, dès le départ, il est important que vous preniez note de cela.
Les parents d'Ida sont polonais, mais les pogroms, la mise à l'écart des juifs et les difficultés économiques les poussent à quitter leur pays. Yankel et Chaya ont 23 ans lorsqu'ils se rencontrent en 1921 à Berlin, avant de partir pour la France. Le jeune couple profondément laïque s'y sent en sécurité. Bertrand naît en 1924, Ida 5 ans plus tard. Les deux enfants seront français. Bien que mariés à Paris, leurs parents resteront polonais. À la maison, où il travaille dans la couture, on parle yiddish, mais on ne pratique pas la religion. Une vie de famille simple et heureuse. Mais tout bascule à la fin de l'été 1939, quand la guerre est déclarée.
Depuis le 1er septembre, au lever du jour, la Pologne est victime de la plus brutale et de la plus cynique des agressions. Ses frontières ont été violées, ses villes sont bombardées, son armée résiste avec héroïsme à l'envahisseur. La responsabilité du sang répandu retombe entièrement sur le gouvernement hitlérien. Le sort de la paix était dans les mains de Hitler, il a voulu la guerre.
Ont écouté le maréchal parler à leur seule intention.
Jeunes élèves des écoles de France, si j'ai désiré vous parler aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous sachiez que je compte absolument sur vous pour m'aider à reconstruire la France, à faire des Français un grand peuple, loyal et honnête.
En mai 40, qu'est-ce qui se passe? Les troupes allemandes envahissent la France. Moi, j'ai à ce moment-là 10 ans et demi. Alors, mes parents pensent qu'il serait pour moi la plus petite, il serait préférable de m'envoyer à la campagne afin d'éviter les bombardements, afin que je ne connaisse pas de restriction alimentaire. Mes parents m'envoient me réfugier et non me cacher en tant qu'enfant juif. Pourquoi? Parce que lorsque les Allemands envahissent la France, on ignore totalement ce qui va se passer par la suite. Mais par la presse et par la radio, on sait que les Juifs, depuis plusieurs années, sont persécutés et expulsés d'Allemagne sous le régime hitlérien. Mais on ne peut pas imaginer que ce qui se passe en Allemagne va se reproduire en France sous la République. Donc, justement, comme il n'y a aucune raison de se cacher, la personne qui me reçoit à la campagne, c'est un tout petit village où il y a une dizaine de fermes, bah, elle dit à ses voisins, bah, tiens, j'attends ces jours-ci, j'ai une petite juive qui va arriver de Paris. J'arrive dans ce petit village, je suis reçue à bras ouverts. Les gens m'accueillent chaleureusement, me considèrent tout de suite comme l'enfant du pays. Pour eux, je fais vraiment partie du village. Bon, bah, quant à moi, je m'habitue très bien à la vie de la campagne, je découvre la campagne, ça me plaît beaucoup. Je vous dirais que j'apprends immédiatement le patois poitevin, que je n'ai pas oublié, que je parle encore maintenant. Arrive la rentrée des classes, je suis scolarisée. À la fin de l'année, j'obtiens mon certificat d'études. La vie se déroule calmement. Vous savez, c'est, encore une fois, ce n'est pas la joie, la France est occupée, mais la vie se déroule quand même assez paisiblement. Et cette vie paisible, elle va durer comme ça pendant 2 ans.
À messieurs les commissaires divisionnaires, vous devrez vous présenter aux adresses indiquées dès 4h du matin. Tout juif inscrit sur les listes devra quitter le domicile. Vous procéderez avec rapidité et sans parole inutile. Le bien ou le mal fondé de ces arrestations n'ayant pas à être discuté. Tout israélite arrêté doit être conduit au centre de regroupement primaire, quel que soit son état de santé ou son âge.
En juillet 1942, une lettre de son père va bouleverser la vie de la fillette. Il lui écrit que sa maman a été arrêtée et déportée en Allemagne. Elle fait partie des 13 152 juifs victimes de la rafle du Vel'd'Hiv. Dans la ferme d'Alice et Paul Marché à Gennelier, près de Mel, dans les Deux-Sèvres, la vie d'Ida ne sera plus aussi tranquille. Chaque jour, l'enfant guette le facteur, espérant des nouvelles de sa mère. Mais elle continue à fréquenter la petite école de Somme, sans vraiment s'inquiéter. Jusqu'à cette nuit du 30 au 31 janvier 1944.
C'était un dimanche soir, je suis précise parce que j'ai le procès verbal de mon arrestation. Et minuit 15, 3 gendarmes se présentent, réveillent Manolis et lui disent « On vient chercher la petite juive qui vit chez vous ». Manolis est complètement affolée, elle dit « Mais c'est pas possible, vous n'allez quand même pas emmener cette gamine ». Moi j'ai à ce moment-là 14 ans et 2 mois. Eh bien, les gendarmes sont 3, parmi les 3, il y a un brigadier qui est responsable des 2 autres, il lui répond « Nous, on a des ordres. Si on ne la trouve pas, on emmène votre mari. » Pour moi, il est hors de question, il est impensable de laisser arrêter son mari à ma place. Et malgré toutes les supplications de ma nourrice et malgré tous les arguments d'humeur, ils ne veulent rien savoir, ils m'emmènent. Arrivé à la gendarmerie, il est déjà tard, les discussions ont duré longtemps, la nuit est avancée, on arrive à la gendarmerie, en haut des marches du perron, le capitaine de la gendarmerie en personne, il est là. Il me fait asseoir. Et là, il commence à me cuisiner, il n'y a pas d'autre mot, pour connaître l'adresse de mon père. Alors, si je vous parle de ce passage à la mairie, c'est tout simplement pour vous montrer le zèle de ce capitaine. Non seulement on arrête une gamine de 14 ans, mais on peut aussi avoir l'adresse du père, qui est encore en liberté. Et c'est pour vous montrer aussi la bonne collaboration qui existait entre la gendarmerie d'une petite bourgade comme Mel. La ville avait à peine 5000 habitants, et la commandanture de Paris, la commandanture c'est le siège de la Gestapo, dont dépendait mon père, ben voilà, on savait en arrêtant une gamine de 14 ans qu'on pouvait aussi avoir l'adresse du père. Bon ben écoutez, à 14 ans on n'est quand même pas des bébés, je ne vais pas donner l'adresse de mon père. Alors je lui dis, mais depuis qu'on a arrêté ma mère, je n'ai aucune nouvelle de mes parents. Vous voyez, comme il est bien renseigné, il ne m'a posé aucune question sur ma mère. Ma mère est arrêtée depuis 1 an et demi, c'est une affaire classée. S'il intéresse, c'est mon père qui est encore en liberté. Et puis au bout d'un long moment, quand il a vu que je n'étais pas décidé à parler, il m'a fait sortir. Il m'a fait sortir et ces mêmes gendarmes m'ont emmené en voiture, m'ont pris dans la voiture et m'ont emmené à Niort, dans la ville principale des Deux-Sèvres, où on avait organisé cette nuit-là, on avait installé une espèce de dépôt pour parquer les personnes juives qui avaient été arrêtées dans les environs. J'ai su après que nous étions 58. Et 2 jours plus tard, nous avons été conduits à pied par 20 gendarmes dans 2 gradés. Vous voyez que pour s'évader, il aurait fallu être fort. Et ils nous emmènent à pied, c'était juste à côté, à la gare SNCF pour prendre un train. Alors, arrivés le matin à Paris, nous ont fait monter dans les vieux autobus qu'il y avait à l'époque, avec les grandes plateformes, et nous avons été conduits au camp de Drancy. Alors, il se trouve que je faisais beaucoup plus que 14 ans. Je vais vous dire en quelques mots pourquoi. Parce que la dernière fois que j'avais vu ma mère, c'était 3 mois avant qu'elle soit arrêtée. Et à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, j'avais 12 ans et demi. Et ma mère m'avait dit, mais t'es une grande fille maintenant. Je trouve que tes petites frisettes, là, ça fait bébé. Je vais te peigner à la mode. Ma mère m'a emmenée chez sa coiffeuse et m'a peignée comme étaient peignées les femmes pendant la guerre. On appelait ça une houppette. Et j'ai gardé cette coiffure. Et quand je suis arrivée à Drancy, à 14 ans peignée comme ça, j'en faisais facilement 16, et c'est pour ça qu'on m'a embêté pour la carte d'identité. Et on commence à nous parler. Et on commence à lui dire, que nous allions partir travailler dans des camps en Allemagne dans quelques jours. Nous sommes début 44, le mot Auschwitz est totalement inconnu. On n'a jamais entendu parler de ce nom-là. On nous dit travailler dans des camps en Allemagne. Et on ajoute, pour calmer le jeu, pour que tout se passe le plus calmement possible, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que ceux qui ont de la famille qui a été déportée avant, on va les rejoindre. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer combien ces paroles me réconfortent. Je suis sans nouvelles de ma mère depuis un an et demi et on me dit maintenant que je vais la rejoindre. Tout le monde l'a cru, hein. C'était tout à fait plausible, c'était comme on dit aujourd'hui le regroupement des familles. Eh bien moi je l'ai tellement cru, ça m'a tellement réconforté que pendant la semaine où je suis restée à Drancy, je suis restée exactement une semaine, là où la nourriture était déjà très mauvaise et insuffisante, moi je n'ai pas ouvert les provisions que m'avait donné ma nourrice, je me suis dit « Maman, ça fait un an et demi qu'elle est dans un camp, elle sera contente d'avoir des bonnes choses de la campagne. » Moi j'attendais qu'une chose, c'était le départ. Et le départ arrive le 10 février. Le 10 février au matin, la police française en nombre vient nous chercher dans les dortoirs, nous font descendre les grands escaliers, nous recomptent et nous font reprendre le même genre d'autobus qu'on avait pris 8 jours avant avec les grandes plateformes. On n'a pas roulé beaucoup parce qu'on nous emmène à la gare de marchandises de Bobigny qui est à côté de Drancy. Et arrivé à la gare de marchandises, on nous fait monter sur le quai de la gare et là, tout un groupe de soldats allemands nous attendent. Alors la police française nous pousse pour qu'on monte sur le quai et dès qu'on est sur le quai, la police française se retire, on ne voit plus un seul policier français. Écoutez, on a ressenti ça comme un abandon. Vous savez, nous avions tous été arrêtés par la police française. Mais tant qu'on était gardés par la police française, on avait confiance. On pensait que rien ne pouvait nous arriver de mal, on n'avait pas peur. Pour nous, c'était vraiment un choc. On est donc sur le quai de la gare. Alors, le long du quai va stationner un immense train de wagons à bestiaux. Chacun a une porte à glissière. On a ouvert la porte à glissière et à toute vitesse, avec brutalité, les SS sont là, les SS de matraque, qui nous poussent. Autant qu'on peut rentrer dans le wagon, ils nous poussent. Par terre, c'est du plancher. On a juste éparpillé un petit peu de paille. Il y a une toute petite lucarne grillagée qui laisse à peine entrevoir le jour. Et par terre, le long du mur par terre, on a posé un seau d'eau ordinaire en zinc, et on a posé une grande cuve, un très grand récipient qui va servir de seau hygiénique collectif. C'est-à-dire qu'on aura à faire nos besoins comme ça dans tout le monde. Alors, on essaye de s'asseoir par terre comme on peut, mais vous savez, on est si serré qu'on ne peut pas s'asseoir correctement. Et le train démarre. Alors, c'est un voyage qui a duré 3 jours et 3 nuits. C'était insoutenable. Ce qui fait que lorsque le train a stoppé brusquement, le matin du 4e jour, et c'est surtout lorsque on a entendu déverrouiller les serrures qu'on a compris que c'est vraiment l'arrivée, et bien à ce moment-là, les gens disaient « Ah, enfin on arrive !» On ne savait pas du tout où on arrivait, on ne savait pas du tout comment ça serait, mais il y avait une chose qui comptait, on allait pouvoir respirer un petit peu d'air frais, on allait pouvoir se dégourdir les jambes, on était serrés depuis 3 nuits comme ça, effectivement c'était l'arrivée. Nous avons été accueillis par des cris, des hurlements et des aboiements. Toute une rangée de soldats allemands qui étaient là, ils tenaient chaque soldat tenait un chien en laisse, et ils ont commencé à hurler de toute leur force, schnell, schnell, raus, raus, los, los. Vous savez, on s'est demandé sur quelle planète on était arrivé, vraiment, ça nous a fait peur, et on a su par la suite qu'à chaque transport qui arrivait, c'était la même chose, la même mise en scène pour nous faire peur. Alors on est donc là, on descend, et là nous attendent tout un petit groupe de prisonniers, des hommes habillés avec les tenues de bagnard comme vous avez dû voir en photo. Et il y en avait un ou deux qui parlaient français, et ils nous disent « il faut tout laisser sur place ». Dans un premier temps, j'ai jeté mon linge de rechange, mais quand il m'a fallu jeter les provisions que je réservais déjà depuis une dizaine de jours pour ma mère, parce que même dans le train, je dis à personne que j'avais des provisions que je gardais pour ma mère, quand j'ai dû les abandonner dans la neige, écoutez, j'ai eu à ce moment un crève-cœur terrible, je me dis ça c'est bête, alors quand je vais retrouver maman, je ne pourrais pas lui donner. Moi, je continue à croire ce qu'on m'a dit à l'avancée, que je vais rejoindre ma mère, et là, on me prend les provisions. À ce moment-là, sont arrivés plusieurs soldats, avec des espèces de matraques à la main, et on a commencé à séparer les hommes des femmes. On a poussé les hommes vers la gauche, les femmes et les enfants vers la droite. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ce matin-là, à Auschwitz, le 13 février 1944, exceptionnellement, un seul SS qui était là, avec sa badine, qui faisait la sélection. Et puis comme ça, avec le bras, il nous désigne, comme ça, il nous dit, ceux qui sont fatigués, ils désignent les camions. Bon, ceux qui peuvent marcher, ici. Hein. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, moi je me suis dit en moi-même, moi je ne suis pas fatigué, moi je marche. S'il m'avait demandé mon âge, je ne rentrais pas dans le camp. À Auschwitz, les enfants n'étaient pas admis à 14 ans. Et bien vous voyez, c'est grâce à la coiffure de ma mère qui n'a pas fait attention à mon âge. C'est que je dis toujours avec beaucoup de tendresse que ma mère m'a donné deux fois la vie.
Un premier miracle. Ce jour-là, Ida, qui vient d'avoir 14 ans, sera probablement la plus jeune à entrer à pied dans le camp.
Il nous arrête devant une baraque. Trois SS sont là, regarde à vous, ils commencent à hurler en allemand et en français, il faut se déshabiller. Écoutez, nous sommes restés figés sur place. Aucune de nous n'a commencé à se dévêtir, il nous a paru impensable de se déshabiller devant ces soldats. On n'a pas bougé. On n'a pas bougé, mais on n'a pas eu à réfléchir longtemps. Du fond de la salle, on a vu surgir plusieurs femmes. Elles avaient chacune à la main une espèce de gourdin. Elle portait un brassard marqué capot en lettres noires sur fond blanc. Nous, on arrive, on ne sait même pas ce que ça veut dire capot. Et ces femmes-là, elles commencent à battre violemment les femmes qui sont à côté d'elles. Elles avancent, elles battent, elles avancent, elles battent. On a compris qu'on ne va pas pouvoir y échapper, il va falloir se déshabiller. Arrive au sous-vêtement, on ne veut pas aller plus loin, hein, on reste comme ça. Et bien, écoutez, à ce moment-là, les SS se déchaînent, mais alors complètement, sont complètement déchaînés et commencent à hurler « Naked, 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 nu, faut qu'on soit nu !» C'était un moment absolument épouvantable. Et ensuite, par le fond de la salle, arrivent plusieurs femmes. Elles ont chacune une tondeuse à la main. Et elles commencent à tondre les femmes entièrement. Le crâne, les aisselles, le pubis. Quand on a vu à quoi ressemblaient les femmes qui étaient passées par la tondeuse, on était complètement effrayés. Vous savez, les femmes, elles étaient complètement métamorphosées, méconnaissables. Elles ne ressemblaient plus à des femmes. Et ensuite sont arrivées d'autres femmes, elles avaient chacune, dans la main, un petit encrier qui s'est avéré de l'encre de Chine et une petite plume en acier dont on se servait avant les points de bique. Et elles ont commencé à tatouer un numéro sur l'avant-bras, les femmes. Tout bascule dès le premier jour. Il y a 15 jours, 3 semaines, on était en liberté. Bon, on vient aussi de la civilisation. On a un nom de famille, on a un prénom. Bon, on a des cheveux. On ressemble à une jeune fille, on ressemble à une femme. On est habillé comme tout le monde correctement, on a un aspect humain. Et bien, quand on nous fait ressortir par l'autre ouverture qui donne sur le camp, on va rejoindre les baraques qui nous sont destinées, et bien, en l'espace d'une demi-journée, on a perdu toute identité. Maintenant, c'est absolument terminé. Plus jamais, on va nous appeler ni par notre nom, ni par notre prénom. On devient le numéro matricule tatoué sur le bras. Les femmes qui sont arrivées avec de la famille ont voulu savoir où était leur famille. Alors elles ont demandé, elles ont dit, mais les gens qui sont montés dans les camions, où est-ce qu'ils sont? Quand est-ce qu'on va pouvoir les voir? Eh bien, je peux vous dire que les femmes, sans ménagement, nous ont dit la vérité. Elles ont commencé par me dire, vous savez, ici à Auschwitz, alors c'est là où on entend pour la première fois le nom d'Auschwitz, puisqu'on ne l'a jamais entendu, elles nous disent, ici à Auschwitz, il y a des chambres à gaz. Écoutez, on les regarde complètement hébétées, on ne comprend pas ce que ça veut dire. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Alors elles insistent, elles nous disent oui, elles disent ici, à Auschwitz, il y a des chambres à gaz. Les gens qui sont montés dans les camions, on les a emmenés directement à la chambre à gaz. Et après, quand les gens sont morts, eh ben leurs corps sont brûlés dans des crématoires. Écoutez, ça dépassait l'imagination, ça dépassait l'entendement. On a pensé qu'elles étaient aigries. Qu'elles avaient perdu la raison pendant qu'elles étaient là, on n'a pas pu les croire. Alors, elles ont vu notre aigrie et nous ont dit mais vous voyez bien là-bas la cheminée qui fume. Pour nous, qu'est-ce que c'était une cheminée qui fume? C'était une fabrique, c'était une usine. Comment imaginer que dans cette cheminée, sont en train de brûler les corps de ceux qui sont arrivés le matin? Je peux vous assurer qu'il nous a toutes fallu un certain temps pour le croire.
Le convoi numéro 68, parti le jeudi 10 février 1944 de la gare de Bobigny, arrivait le dimanche 13 février à Auschwitz, transportait 1500 personnes. 1229, dont 295 enfants, seront gazés, puis brûlés dans les fours crématoires dès leur arrivée dans le camp. À la libération, on comptera 59 survivants.
Voilà, bah je vous laisse poser des questions maintenant.
Cette première partie du témoignage, peut-être poser des questions. J'imagine que vous avez plein de questions à poser à Madame Grinspan.
Les élèves se taisent. Ceux qui prennent des notes s'arrêtent d'écrire. De longues minutes de silence, malgré les encouragements des professeurs.
Je tiens à vous dire, comme elle vous a dit, Madame Grinspan, il n'y a pas de questions bêtes.
Non, non.
Donc, faut y aller. Elle n'attend que ça, Madame Grinspan. Elle n'attend que vos questions. Donc, voilà, ne soyez pas timide. Allez-y.
Voilà.
Le déroulement d'une journée type.
Le déroulement d'une journée type.
Alors, le lever, il était à 4h du matin. Été comme hiver. À 4h du matin, on était secoué et il fallait immédiatement aller chercher le jus du matin à la cuisine. Alors c'est pareil, il fallait porter les seaux qui étaient énormes. C'est-à-dire, le jus du matin, c'était ni du thé ni du café. Est-ce que c'était une espèce de jus aux herbes, d'eau chaude aux herbes, je ne sais pas. À ce moment-là, il fallait sortir et aller à l'appel. Alors l'appel se faisait dehors, en colonne 5 par 5, à la verticale. Et on était compté par des femmes SS. Alors dès qu'il y avait eu l'appel, ben, c'était le passage aux latrines. Alors le passage aux latrines, on ne s'y est jamais habitué. C'était vraiment quelque chose d'humiliant, de dégradant qu'on ne peut pas imaginer. Les latrines, si vous avez vu des photos, ce sont des bancs de pierre ou des bancs en bois avec des trous en quinconce et on est une cinquantaine de femmes à aller aux toilettes ensemble. C'est horrible. Alors après on revient à la hauteur de la baraque et là nous attendent plusieurs capots et nous attendent plusieurs soldats SS avec leurs chiens. Et on s'en va travailler. On travaille de 6h du matin à 6h du soir. Et à 18h, on refait le chemin inverse, et dès qu'on arrive à la hauteur de notre baraque, là, c'est l'appel du soir. Alors, l'appel du soir, il est interminable. Il est interminable d'abord parce qu'on est fatigué, on a peu dormi, on a travaillé, on n'a presque pas mangé. C'est interminable. Ça peut être 2 heures, ça peut être plus. Alors, quand l'appel est terminé, on rentre dans la baraque faire la queue pour le pain du soir. On est toujours fatigué parce qu'on ne dort pas assez et on n'a pas assez de repos. On est vraiment fatigué. Vous savez, quand on parle entre nous comme ça, on se dit que quand on sera libéré, on dormira pendant 8 jours. Le sommeil dépasse la faim. Tout doit être vite, on va marcher vite, travailler vite. C'est toujours schnell.
Une autre lycéenne lui demande, pour survivre à ce que vous avez vécu, fallait-il beaucoup de solidarité?
Alors écoutez, jeune fille, hein, si ça avait été chacun pour soi, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Pour survivre, on a eu besoin de la chaleur humaine, de la gentillesse, de la fraternité. Mais vous savez, quand on parle de solidarité, on pense par exemple tout de suite matériel. Alors si c'est ça, on ne l'a pas eu. Hein. Pendant tout le temps où j'étais à Auschwitz, j'étais presque un an à Auschwitz, personne ne m'a donné une cuillère de soupe et moi, je n'ai pas donné une tartine à personne. Parce que quand on a si peu, on ne peut rien partager. Les filles qui ont travaillé dans les commandos où on pouvait grappiller, elles ont aidé leurs amis. Hein. Mais la solidarité, elle ne s'arrête pas à un truc matériel. Il y a une solidarité physique qui existe. Hein. Par exemple, dès la première nuit qu'on a passée à Birkenau, on était 5. Dans une espèce de case avec la paillasse, on a reçu 2 couvertures. Et ben, le lendemain matin, les 2 filles qui dormaient au bord, elles ont dit on a eu froid toute la nuit, on n'arrive pas à avoir de la couverture. Eh bien, l'aîné du groupe a dit bah, puisque c'est comme ça, on va instaurer un tour de rôle. Chacune notre tour, on dormira au milieu, là où on a plus chaud. Si on n'avait pas fait ça, les plus malines, elles auraient toujours été au milieu, puis les plus timides, elles auraient été au bord. Hein. Vous voyez, j'aurais été seule dans une baraque où personne n'aurait parlé français, j'aurais pas tenu le coup.
Qu'est-ce que symbolise aujourd'hui pour vous votre tatouage?
Qu'est-ce que vous appelez par symbolisme?
Est-ce que ça vous permet de vous rappeler ou... Je ne sais pas, non, je sais pas comment expliquer.
Mais écoutez, quand je suis arrivée à l'hôpital, le premier jour, tout de suite la première visite médicale que j'ai eue, le médecin m'a dit « Vous devriez enlever ça ». Bon, alors j'ai réfléchi à ça, je me suis dit « Si quelqu'un doit avoir honte, c'est en tout cas pas moi ». J'ai donc décidé de le garder et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je trouve que j'ai bien fait de le garder parce que si je vous avais dit à vous, comme aux autres élèves, je regarde le numéro qui va le voir, si j'avais dit oui, on a été tatoué, ben c'est pas pareil que si vous le voyez. Et quand vous le voyez, vous vous rendez compte à quel point c'est bestial de vous mettre de vous marquer dans la chair comme ça.
Est-ce qu'il y a encore une question avant qu'on termine ? Bien, donc on va peut-être terminer. Merci beaucoup à Madame Grinspan d'être venue témoigner. Merci à vous. Si vous souhaitez lui poser quelques questions en aparté, il n'y a pas de souci.
Il faut leur montrer les...
Si vous voulez.
Avant de quitter le lycée, Ida montrera des photos d'elle avant et après la déportation. Elle rédigera quelques mots sur le livre « J'ai pas pleuré » écrit avec Bertrand Poirot-Delpech après son premier retour à Auschwitz.
J'ai déjà lu ce week-end. Je voulais le lire avant. Moi.
Tu t'appelles comment ?
Louise. Et est-ce que vous pouvez noter le prénom de ma maman aussi, s'il vous plaît ? Parce qu'elle est très intéressée.
Comment s'appelle la maman ?
Valérie.
Pour Valérie et Louise,
oui.
Alors ?
À Angers, la journée s'achève. Ida rentre à Paris pour quelques jours seulement. Bientôt, elle repartira dans une autre ville pour témoigner encore devant des élèves. Alors nous nous trouvons dans un train avec vous, Ida.
Effectivement, je prends souvent le train parce que je vais très souvent en province, dans les écoles, lycées et collèges, pour témoigner devant les élèves de ce qu'a été ma déportation.
Tous les survivants, tous ceux qui ont eu la chance de rentrer en 1945, ne témoignent pas ou n'ont pas témoigné. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de le faire ? C'est pas juste parce qu'on vous l'a demandé.
Oh, c'est parce que j'ai toujours pensé le faire, parce que quand nous étions au camp, nous les plus jeunes, eh bien les femmes qui partaient à l'infirmerie, qui sentaient qu'elles ne reviendront pas, qu'elles étaient trop malades, elles nous disaient toujours « si vous revenez, il faudra leur dire ». Elles avaient tellement peur que le monde ne sache pas ce qui se passait dans le camp. Donc on est revenu avec cette idée dans la tête et quand on m'a posé les questions, moi personnellement j'ai toujours répondu, mais les gens n'écoutaient pas.
Quand vous ne serez plus là, vous, pour témoigner, qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'est-ce qui restera ?
Il restera les écrits, il restera les livres, il restera les vidéos, mais les élèves ne pourront pas poser de questions comme ils peuvent en poser maintenant. C'est ça qui est important, c'est cet échange qu'il y a dans les classes. Mais ça, c'est incontournable, ça, il y aura une fin.
Commandant. Ouvrez-moi ça.
À vos ordres. Reculez. Laissez-nous ouvrir. Reculez.
Il dit que les gardiens sont partis ce matin, chef. Langsam, bitte. Langsam.
Zuvor verbrannten sie noch einige der Baracken.
Mais avant, ils ont incendié des baraquements.
Mit Gefangenen immer noch drin. Lebend.
Avec des prisonniers dedans, a priori.
Lebend.
Vivants.
Fin décembre, à Paris, nous retrouvons Ida Grinspan chez elle, dans son petit appartement, pour la suite de son récit. Il y a quelques jours, on s'est vu à Angers, dans un lycée, où vous avez continué inlassablement à témoigner, comme vous le faites depuis des années, comme ça, dans les lycées. Et encore plus en 2015 qu'en 2014, vous allez continuer encore à témoigner, parce qu'on parle de libération des camps. Ça, c'est quelque chose qui vous énerve un peu, Ida,
parce que c'est pas tout à fait ça. On a pris la date du 27. Je parle d'Auschwitz. Hein, c'est le camp principal où je suis allée pendant presque un an. On parle de la libération d'Auschwitz. Non, ça a été l'ouverture d'Auschwitz. Les Russes sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? 5 à 6 000 malades qui ne pouvaient pas marcher. Et tous les autres, près de 60 000, ont été jetés sur les routes glacées. Nous avons été évacués le 10 janvier et nous avons été libérés le 2 mai. Vous savez, on entendait le canon depuis plusieurs jours. On avait compris que c'était le front russe qui s'approchait. Et là, il y avait une rumeur qui circulait qui disait que quand les Russes arriveraient, on allait faire sauter le camp pour effacer toutes les traces. C'est une chose qui aurait pu être possible. Et finalement, on est rentré du travail le 18 janvier, le soir, et la chef de baraque nous dit, les Russes approchent, donc on part à pied. Sur le moment, ça a été un soulagement pour nous de partir. On savait qu'on partait à pied, il faisait froid, on était fatigués par des mois et des mois d'internement, mais on était contents de partir. Pourquoi ? Parce que ça faisait des semaines et des semaines, ni sinon des mois, que les capots nous sapaient le moral et nous disaient journellement, ici, vous savez, de toute façon, ici à Auschwitz, on rentre par la porte, on sort par la cheminée. C'était sans arrêt, on avait beau s'accrocher à la vie, elle nous démoralisait sans arrêt. Alors quand on nous a dit qu'on quitte Auschwitz, tout de suite on s'est dit, peut-être que dans le camp où on va nous emmener, il n'y aura pas de chambre à gaz. On s'est accroché à ça, ce qui fait qu'on est sorti par la porte, on n'est pas sorti par la cheminée, et on s'est dit, bon, ça pourrait être que mieux. Donc on est parti avec le moral. Ça, on ne s'attendait pas à marcher comme ça pendant 3 jours, sans nourriture. On avait juste quelques heures de repos la nuit, on marchait, sans nourriture. Je ne sais pas comment, en vérité, je ne sais pas comment on a fait pour tenir. Heureusement qu'il a neigé. Hein, il a neigé, alors on arrivait à attraper quelques flocons de neige dans la bouche. Et on a mangé de la neige pendant 3 jours.
Et tout le monde n'a pas survécu ?
On dit qu'il y a à peu près la moitié des gens, du côté des femmes et du côté des hommes, qui ont trouvé la mort pendant la route. Parce que les Allemands ne voulaient pas être attrapés par les Russes. Il fallait marcher d'un bon pas. Et nous, on était fatigués, on avait du mal. Et dès qu'ils voyaient une femme qui ralentit, elle était immédiatement sortie des rangs, mise sur le côté et abattue à coups de crosse devant nous. Ça, c'était horrible. On marchait comme des automates. On savait que c'était marche ou crève. Hein. On n'avait pas le droit de s'arrêter. Alors, qu'est-ce qui nous a donné la force ? C'est entre nous, on s'est aidés entre nous. Il y a eu un moment où moi, j'ai ralenti, j'étais fatiguée. Nous étions 5. Mes camarades m'ont mise à la place du milieu. Elles m'ont donné le bras. Elles m'ont soutenue pour pas que je m'écroule. Il y a eu d'autres moments, je ne sais pas si c'est le lendemain ou le surlendemain, où moi j'avais un petit peu récupéré, j'aidais les autres. C'est-à-dire que c'est dans la marche de la mort que la solidarité a été le plus efficace. Sans la solidarité, il eût été impossible de marcher comme ça. Ça a été quelque chose d'épouvantable, la marche de la mort.
Ida et les autres survivantes arrivent d'abord à Ravensbrück. Puis 3 semaines plus tard, dans le camp de Neustadt. C'est là qu'elle tombe malade.
On devait dormir par terre, mais moi j'empêchais tout le monde de dormir. J'avais le typhus qui se déclarait. J'ai déliré toute la nuit.
Vous qui n'aviez pas été malade à Auschwitz.
J'ai pas été malade à Auschwitz du tout. Mais vous voyez, la chance quand même, c'est que je tombe malade dans un camp qui n'a pas de chambre à gaz. Ça, je le savais, on ne savait pas quand on est arrivé. Et alors, le lendemain matin, quand j'avais été malade toute la nuit, j'avais déliré, ma meilleure amie que j'ai connue à Auschwitz...
Quel est son prénom ?
Liliane. Et elle me dit, tu ne vas pas pouvoir rester là, t'es trop malade, la chef de baraque, elle ne va pas te garder. Et elle me dit gentiment, viens, je vais t'aider, tu vas aller à l'infirmerie. Alors, à Auschwitz, on avait une peur bleue de l'infirmerie, parce qu'il y avait sans arrêt des sélections. C'était vraiment l'antichambre de la chambre à gaz, les sélections. Si j'avais eu moins de fièvre, j'aurais jamais accepté d'aller à l'infirmerie. Et à l'infirmerie, alors là, il se produit un miracle. Alors là, je dis toujours qu'une étoile a brillé pour moi. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Je rencontre une infirmière polonaise, c'est elle qui m'accueille et qui m'admet, parce que j'étais tellement malade. Elle s'occupe de moi. Et elle m'a soignée d'une façon extraordinaire. Elle s'est débrouillée pour aller à l'hôpital des SS pour avoir des médicaments pour soigner mes gelures.
Elle vous a sauvé ?
Bien sûr, elle m'a sauvé. D'abord, elle a sauvé mes pieds. Si elle ne m'avait pas soigné les pieds, on m'a dit en rentrant à Paris qu'on aurait dû à ce moment-là m'amputer les doigts. Et en plus, j'avais le typhus, je ne voulais absolument rien avaler. Elle a partagé avec moi la soupe qu'elle se faisait avec sa collègue. Elle se faisait une petite soupe à la pomme de terre et ça, ça passait. Et elle m'a donné, elle a partagé avec moi. Elle m'a nourrie. Quand elle appuyait sur mes doigts parce qu'ils étaient morts complètement, elle voulait savoir si le sang circulait et tout. Et elle me demandait si j'avais mal. Je disais non. Elle était désolée de se rendre compte que ça circulait pas. Hein. Moi, ma survie, c'est Wanda.
Voilà. Et vous parlez de Wanda. C'est la première fois que vous me dites son prénom.
Oui, c'est Wanda.
Vous l'avez appris très vite.
Oui, je savais qu'elle s'appelait Wanda. Mais je savais rien d'elle. À l'époque, elle avait un triangle rouge. Je savais qu'elle n'était pas juive. Et je ne savais pas qu'elle avait été une si grande résistante. Ça, j'ai su après la guerre.
Le triangle rouge, c'est la
signification. Politique. C'est politique.
Et là, on est au mois d'avril, mai.
Alors, on est fin mai. On est fin avril, pardon.
Fin avril. Et vous n'êtes toujours pas, entre guillemets, libérée.
Non. Et c'est le 30, à la fin avril, que les Allemands quittent le camp sans faire de représailles. Dans la nuit, ils s'en vont parce que les Russes sont arrivés aux portes de la ville. Nous, on attendait qu'on vienne nous aider à sortir. On ne pouvait pas se lever. On était tellement malades, on ne pouvait pas marcher. Les Russes sont arrivés. Et qu'est-ce qu'ils ont vu, les Russes? Les Russes ont vu des femmes qui sortaient des baraques, mais les Russes n'ont pas su qu'il y avait une infirmerie. Ils sont repartis occuper la ville. Mais nous, on n'a pas vu les Russes. On était une trentaine de femmes, dont trois Françaises. Et parmi ces trois Françaises, il y avait une amie, il y avait Claudine, qui était de mon groupe. Et il y avait une troisième Ginette, qu'on avait connue pendant qu'on était à l'infirmerie. Elle n'était pas de notre groupe. Bon. Donc, toute une journée, on n'a pas de nourriture, rien. Le lendemain matin non plus. Et dans l'après-midi du lendemain, on voit arriver trois superbes soldats. Pas superbes soldats, mais alors magnifiques. Hein. Des soldats, je dis toujours, les filles éclatent quand je dis ça. Je ne sais pas comment ils mesuraient, 1m90, peut-être plus. Ils avaient des belles casquettes et ils avaient surtout des uniformes qui sortaient de leur magasin. Ça ne faisait pas un pli. Ils sortaient d'une boîte. Ils arrivent et ils font « Hello !» Ah bon, alors, comme ils font « Hello », on comprend que ce sont des Américains. Alors, ne croyez surtout pas qu'on a la force de leur sauter au cou. On est complètement avachis, amorphes, nous sommes très, très, très malades, on relève tout du typhus et très affaiblis. Et nous, on répond « Hello !» Bon. Et alors, ils s'approchent de nous, ils essayent de nous parler. Eh bien, impossible de nous parler. Sur une trentaine de femmes, en 1945, au mois de mai, aucune femme ne peut aligner quelques mots d'anglais pour leur dire qui on est. Ils ont jeté sur un chalet en haut tout ce qu'ils avaient dans leur poche. Ils ont jeté des bonbons, du chocolat, du chewing-gum et ils sont partis. C'est ce qu'on était contente, on n'avait pas mangé depuis 2 jours, on a mangé ça. Mais on attend, ben les Américains ne reviennent pas. Les Américains ne reviennent pas parce qu'eux, ils sont en reconnaissance, certainement, ils vont plus loin. Et les Russes, qui sont déjà dans la ville à côté, ben, ils ne viennent pas parce qu'ils ont ouvert le camp. Ce qui fait que personne ne vient, pendant toute une journée, on n'a rien. Et c'est là où Ginette, elle prend le taureau par les cornes, elle me dit « Mais qu'est-ce qu'on va devenir ici? Qu'est-ce qu'on va devenir ?» Moi, je vais chercher du secours. Alors, elle est la seule à pouvoir marcher. Elle n'a pas les pieds gelés. Et elle s'en va. Et quelques temps après, on voit arriver là tout un bataillon de soldats. Écoutez, on est très content d'avoir de la visite, mais sur le moment, on est un peu déçus. Ils ne sont pas du tout aussi beaux que les Américains.
Les toutes jeunes filles là, qui gardent toute cette fraîcheur.
Ah oui. Qui ne sont pas aussi beaux que les Américains. Ce sont des Russes qui ont été prévenus par notre amie Ginette. Ils arrivent, c'est pareil, hein. Personne ne parle le russe et eux ne parlent que le russe. Alors je peux vous dire que eux, ayant été prévenus par notre amie Ginette, ne sont pas venus les mains vides. Chaque soldat tenait une brouette à la main. Et j'ai été libérée en brouette avec une autre fille. Ils ont mis 2 nanas dans une brouette. Alors je peux vous dire, on était une trentaine de filles. Ça veut dire que sur la route, il y avait toute une procession de brouettes qui partaient en ville.
Vous avez été libérée en brouette.
Et arrivé dans l'hôpital, on a été, alors là, merveilleusement soignés par les Russes. C'est-à-dire que les médecins russes savaient, eux, comment nourrir des gens comme nous, qui avaient été tellement affamés, qui avaient l'estomac rétréci. Et ça, je peux dire que vraiment, c'est une chance, parce que dans les camps qui ont été libérés par l'armée, par exemple, Bergen-Belsen, qui a été libéré par les Anglais, ils n'ont pas fait d'intendance, ils leur ont donné des conserves, du cornet de bœuf, et il y a eu beaucoup de mortalité après la guerre.
À cause de ça?
Mais bien sûr, on ne peut pas manger, on ne peut pas se mettre à manger d'un seul coup quand on a l'estomac tellement rétréci. Et eux, les Russes savaient comment nous nourrir.
Les prisonniers reviennent chaque jour par milliers. Pour eux, le cauchemar est fini. Paris accueille de son mieux ses survivants, prisonniers et déportés. Quelques formalités indispensables, et ils vont retrouver cette vie qu'ils ont quittée depuis des mois ou des années. Des femmes aussi ont souffert ce martyre. 300 survivantes du camp de Ravensbrück sont rentrées. Rien ne peut racheter ni compenser les souffrances de ces hommes et de ces femmes. Mais nous avons un devoir envers eux et envers ceux qui ne reviendront jamais, ne rien oublier.
Le 30 mai 1945, trois semaines après la capitulation allemande, 16 mois après son arrestation dans une ferme du Poitou, Ida est enfin rapatriée en France à bord d'un avion canadien. À Paris, Ida est hospitalisée pendant 2 mois à Broussé. Quand il vient la voir pour la première fois, son frère ne la reconnaît pas. La guerre est finie, mais Ida et Bertrand sont seuls au monde. Ils ont 15 ans et demi et 21 ans. Leurs parents ne reviendront pas. Pendant plusieurs années, Ida recherchera Wanda, l'infirmière polonaise qui l'a sauvée. Elle l'entendra au téléphone, mais Wanda mourra avant qu'elle se retrouve. En 1988, 43 ans après, Ida acceptera pour la première fois de retourner à Auschwitz. Cette année, pour le 70e anniversaire de la libération des camps, elle n'a pas trouvé la force de refaire le voyage. De toutes ces rencontres, de toutes ces années qui sont passées comme ça, depuis cette horreur de la déportation, les années qui ont suivi, etc., qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé?
Non, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre qu'est-ce qui a poussé les hommes. On ne peut pas comprendre ce que les nazis ont voulu faire. On ne peut pas comprendre. Il n'y a pas d'explication. Non seulement il n'y a pas d'explication, mais vous savez, avec le temps qui va passer, quand il n'y aura plus de témoins, je commence à me demander est-ce que vraiment on croira ce qui s'est passé ça. Ce qui est important, c'est les élèves, par exemple, quand ils pourront dire à leurs enfants, moi j'ai vu des témoins, moi j'ai vu des numéros sur le bras, moi j'ai vu, on m'a raconté, aussi longtemps que ça pourra se... vous savez, ça peut durer assez longtemps, mais bien sûr, pas à l'infini, quoi.
Mais vous êtes là aujourd'hui. Et votre vie n'a pas été la même, évidemment, que ce qu'elle aurait pu être.
Non, elle n'a pas été la même. Elle n'a pas été la même, mais de pouvoir transmettre, pour moi, c'est une compensation. Je me dis, je pense que je partirai sereine en disant, j'ai fait ce que j'ai pu.
Auschwitz, le récit d'Ida. C'était un reportage de Marie-Christine Ledu. Patrice Klein et Fabien Gosset ont assuré la prise de son, mixage, Bernard Laniel et Olivier Dupré. Interception est une émission réalisée par Anne Leroux avec l'aide de Stéphane Combe et Christine Kern. Je vous souhaite un excellent dimanche.